Bonjour à tous, ce matin nous avons lu ce formidable chapitre 1 de l'évangile de Jean. C'est un chapitre qui déménage. Qui est Jésus ? Qui est Jésus ? Et ça c'est une question mais fondamentale. Est-ce que comme dit le titre d'un ouvrage, je le cite peut-être mal, mais je crois que c'est Jésus-Christ, l'homme qui devint Dieu. Oui. Est-ce que Jésus, c'est un homme dont on a fait par religiosité, par engouement spirituel mais erroné, un homme qu'on a décidé de transformer en quelque sorte en divinité de façon indue parce qu'il n'est pas Dieu, mais on a décidé que ça allait en devenir un. Jésus, l'homme qui devint Dieu pour des millions et des millions de personnes à travers la terre, et depuis 2000 ans que ça dure cette histoire. Mais attention, pas un Dieu, le Dieu. Non, parce que César, c'était un Dieu. Pharaon était adoré comme un Dieu. Oh, vous savez, dans le panthéon des dieux, un de plus, un de moins, ça fait quoi ? Qu'on puisse transformer un homme en un Dieu, ouf, on n'en est plus à un près. Mais attention, Jésus, un charpentier de Nazareth, qui arrive comme ça, il y a 2000 ans, et puis tout d'un coup, bam, il est Dieu. Mais Dieu avec le D majuscule, Dieu, Dieu unique, Dieu trinitaire, Dieu. Et oh, quelle prétention. Vous avez remarqué que ce matin, pendant le culte, on n'a fait que le louer, que lui parler, que de parler de lui. Notre vie, elle est... Voilà, tout notre discours, il est centré sur lui. On dit, je te donne ma vie, prends mon âme. Des tas d'expressions qui s'adressent à ce Jésus en disant, Jésus, t'as transformé mon existence, tu es formidable. Attendez, si c'est un simple homme dont on a fait un Dieu, ça veut dire que là, tout le culte qu'on vient de vivre, c'est du pipeau, c'est du vent. Et donc, c'est vraiment... C'est important, ça. Et donc, c'est vraiment important de se poser honnêtement la question, c'est qui Jésus ? Est-ce que Jésus, c'est un homme que le fanatisme ou le génie, peut-être, diront certains, hein, mais un génie tout humain, de certains hommes, ont réussi à faire passer, à transformer en divinité. Ou bien, est-ce que Jésus, plutôt que d'être un homme qu'on aurait fait Dieu, est Dieu qui s'est fait homme. Alors nous avons deux choix. Soit nous avons affaire à un homme qu'on a fait Dieu, et c'est une mascarade. Soit nous avons affaire à Dieu, Dieu, Dieu avec son grand D, le Dieu, l'unique Dieu qui s'est fait homme. Et c'est tout le sujet de l'évangile de Jean dans son entier. Tout l'évangile de Jean est écrit pour dire que Jésus n'est pas un homme qu'on a fait Dieu, mais que c'est Dieu, le Dieu, qui s'est fait homme. Et ce matin, nous sommes confrontés à cette question : qui est Jésus pour moi ? Nous allons reprendre ce chapitre 1 de l'évangile de Jean, Jean chapitre 1, et Jean propose le commencement d'une réflexion sur laquelle nous pouvons tous nous raccrocher. C'est la question de nos origines. D'où est-ce que je viens? D'où est-ce que moi, en tant qu'être humain, je suis issu? Voilà, j'existe. Cette terre existe. Ça, c'est un fait. On peut pas le contester. On est là. Dans un univers tellement complexe et compliqué, dont on commence à découvrir, mais à chaque fois qu'on découvre une complexité, ça ouvre sur d'autres complexités plus complexes. On se dit, je croyais que c'était simple, mais finalement, derrière cette simplicité, c'est encore plus complexe qu'avant. Ça, c'est la science. On se dit, mais mince, j'existe quand même, je suis là dans ce monde complexe. Mais comment est-ce que tout ça a commencé? D'où est-ce qu'on vient? Et Jean, il commence son évangile par ces mots: au commencement. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors, voilà une proposition. Cette proposition, c'est de dire au commencement, Dieu est. Il est. Il est un créé. Il est. De toute éternité, il est. Mais par contre, il démarre. Il démarre une histoire dans l'espace, dans le temps, dans la matière, avec un monde matériel et avec des âmes vivantes qui vont l'habiter. L'autre alternative, c'est de dire, eh bien, au commencement, rien n'existait, ni Dieu, ni rien, ni matière, ni énergie, puisque d'où viendrait l'énergie? Bon, on est un peu coincé, hein, quand on remonte les origines, soit on aboutit à Dieu, soit on aboutit à un grand point d'interrogation, et on se dit, comment de rien peut naître quelque chose? Et là, Jean dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Effectivement, nous voyons dans le récit biblique qu'au commencement, quand Dieu décide de démarrer cette histoire, dans l'espace, dans le temps, dans la matière, il parle. Et Dieu dit qu'il y ait de la lumière, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Et cela fut ainsi. Dieu dit et cela est. Dieu parle et les choses se créent. Cette parole dans le texte, c'est ce logos. Cette puissance créatrice de la parole qui sort de Dieu et qui crée ce qui n'existait pas, qui de rien fait quelque chose, mais qui a une cause, Dieu, la parole de Dieu créatrice. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Ah, la vie. Ah, quelle question embarrassante. Alors, peut-être il pourrait y avoir une énergie, et puis cette énergie fabrique de la matière. Bon, envisageons-le. Et puis cette matière se met ensemble, et je sais pas trop comment, bim. Bon, des planètes, des trucs. Et puis après, de la matière, mais de la matière morte, attention, enfin, même pas morte, de la matière non organique, de la matière non vivante. Et ça, c'est le gros problème. Comment, à un moment, le non-vivant devient-il vivant ? Ça, mes amis, nous n'avons absolument pas la réponse. Aucun scientifique ne le sait. Mais voilà que tout d'un coup, bam, ça devient vivant. Alors, vous voyez, nous, ici, Jean nous dit, commencement Dieu, commencement cette parole que Dieu engendre et qui crée, et en elle était la vie. Dieu qui est la vie et qui communique la vie. Notre vie que nous avons, nous sommes des êtres vivants. Ce souffle de vie, c'est le souffle de vie de Dieu qui nous a soufflé, qui nous a communiqué par ce logos créateur, la parole de Dieu. Cette semaine, une de mes deux grandes filles est revenue du lycée en disant « Ah bon, je discute avec mes copines de Dieu, tout ça, mais ce qui les empêche de croire en Jésus, et nous sommes là, est-ce que c'est Jésus dont on a fait un Dieu ou est-ce que c'est Dieu qui s'est fait homme ?» Elle dit « Ce qui les empêche, franchement, ce qui les bloque, c'est que ils viennent de Marie et que Marie est tombée enceinte toute seule. » Voilà. Et ça, c'est juste pas possible. Elles peuvent pas croire ça. Et par contre, elles sont... Alors je dis à Évangéline... j'ai dit son nom, hein. C'était Évangéline. Et je dis Évangéline, t'as qu'à leur dire que par contre, elles sont prêtes à croire que d'une petite cellule vivante, cette cellule s'est transformée en poisson, puis elle s'est transformée en petit mammifère, et puis ce mammifère s'est transformé en, je sais pas, en singe, et puis ce singe s'est transformé en toi. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, pour croire ça, je veux dire, c'est quand même beaucoup plus complexe, hein, beaucoup biologiquement, entre une femme qui a tout, l'utérus, tout ce qu'il faut pour, enfin tout, quoi. Hop! Oh, ça germe tout seul, dis donc. Ouais, eh ben c'est beaucoup plus simple que le fait de transformer un poisson en être humain. Hein. Vraiment. Par contre, on est prêt à croire à ces choses, à y mettre toute sa foi, et à dire, ah non, parce que moi, je peux pas croire en Jésus, tu t'imagines, il est né d'une femme vierge. Oh, c'est quoi le délire? C'est quoi le délire de ton poisson qui se transforme grâce à des millions d'années en être humain? Mais il faut être sérieux à un moment. On décide ce qu'on veut croire, et c'est ce que Jean va dire. Jean va dire, vous savez, le problème n'est pas un problème de conviction, c'est un problème de moralité. On va y revenir. Alors, dans ce texte, il dit, au commencement, voilà, est-ce que tu es prêt à accepter ton origine, créée à l'image de Dieu ? Toutes choses ont été faites par cette parole qui était avec Dieu, qui était auprès de Dieu et qui était Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie était la lumière des hommes. On n'aime pas les ténèbres généralement. On éclaire nos maisons quand il fait nuit. On a peur du noir, les enfants veulent leur petite loupiote. Et puis on n'aime pas vivre des choses difficiles, des choses angoissantes, des choses douloureuses, des choses qui nous font peur, qui nous inquiètent, des choses ténébreuses. On préfère la lumière, n'est-ce pas? Et c'est vrai que ce monde, dit Jean, est dans les ténèbres. Et il y a cette lumière qui vient dans le monde, au verset 9, qui est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Est-ce que nous avons besoin que notre vie soit éclairée? Et il y a une réponse à donner à cela. On peut dire non, ça va très bien, je n'ai pas besoin d'être éclairé. Bien, le verset 5 dit « La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Le verset 10 « Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. » Chaque être humain, face à son Dieu créateur, est invité à se remettre en relation, à accueillir la vie, à accueillir la lumière. Mais il y a une réponse à donner. Et lorsqu'on le fait, le verset 12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, tiens, cette lumière a un nom. Ah, elle a un nom. Elle a un prénom. Oui. Nous allons voir. Et nous savons que c'est Jésus. Hein. Il s'appelle Jésus. Son nom est Jésus. Tu l'appelleras Emmanuel, Dieu avec nous. Et Jésus, Dieu sauveur. C'est le sens de Jésus. Dieu sauveur. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le verset 14 nous dit donc, et la parole. Alors on a vu cette parole qui était Dieu. Dieu qui engendre cette parole créatrice par laquelle il crée toutes choses. Et le verset 14 nous dit, et la parole a été faite chair. Elle a été faite corps. Elle s'est, on dit, incarnée. L'incarnation. Dieu qui se fait homme. Est-ce que Jésus, c'est un homme dont on a fait à tort Dieu, ou est-ce que Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme? Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Jean le Baptiste, nous le reverrons tout à l'heure, mais il a été ce précurseur, cet annonceur du Messie, de Dieu fait homme. Et il dit, je vous annonce celui qui vient après moi parce que je suis son précurseur. Là sur la scène terrestre, je prépare son terrain, le Messie est là, il arrive bientôt, il vient après moi, mais attention, il vient après moi, mais c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Il le redit plus tard, parce que cette parole qui s'est incarnée existait évidemment de toute éternité avant Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste dit, oui, c'est vrai, il s'est incarné. Et c'est vrai que je suis un petit peu plus âgé que lui. Je suis né avant. Et d'ailleurs, je le précède, mais bien avant que je sois né, il était. Il est. Il est Dieu. Alors, plusieurs témoignages sont donnés au fait que Jésus n'est pas un homme dont on a fait Dieu, mais qu'il est bien réellement Dieu qui s'est fait homme. Et d'abord, nous avons donc le témoignage de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste qui est là pour affirmer Jésus. Ce n'est pas un simple homme. Jésus, c'est Dieu qui habite parmi nous. C'est Dieu qui est venu se mettre dans la peau de sa créature. Alors Jean-Baptiste, c'était pas n'importe qui. Et c'est pour ça qu'on va venir le voir à partir du verset 19. Les Juifs envoient de Jérusalem des sacrificateurs, des Lévites, pour lui dire « Toi, qui es-tu ?» Parce que Jean-Baptiste commence à prêcher la repentance et il baptise. Et on se dit « Mais ce Jean-Baptiste, ouh, ça bouge, ça bouge, ça bouge. » C'était pas un inconnu, Jean-Baptiste. Puisque 30 ans avant, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, était le souverain sacrificateur d'Israël. C'est-à-dire, dans la nation juive, la personne la plus importante, religieusement, la plus importante, le souverain sacrificateur, qui, une fois par an, tout seul, rentrait dans le lieu très saint, le jour des expiations, et qui était l'autorité spirituelle de toute la nation juive. Oui, c'était le père de Jean-Baptiste, 30 ans avant. Et il y a cet épisode où, alors que justement il entre dans ce lieu très saint, un envoyé de Dieu, un ange, est là et lui dit, alors qu'ils étaient avancés en âge et que sa femme était stérile, il dit, tu vas avoir un fils. Et il va préparer le chemin du Messie. Lui, il rigole, il dit, ah ben non, je suis vieux, ma femme est stérile. Il dit, tu crois pas à ce que je t'annonce maintenant? Eh ben, jusqu'à sa naissance, tu vas être muet. Et il ressort, il est muet, il ne peut plus parler. Il ne peut plus parler, mais il sait encore écrire. Alors, il écrit sur une tablette tout ce qui lui est arrivé. Et bien sûr, quand vous avez votre souverain sacrificateur, le jour le plus important dans la coutume religieuse juive, qui ressort muet en vous disant, il y avait un ange dans le truc, et, enfin, en vous écrivant, ça marque les esprits, cette histoire-là. Et les gens ont dit, mais que sera ce Jean? Que sera ce Jean? Il y avait une interrogation. Eh bien, ce Jean, nous le retrouvons, et il annonce le Messie. Et il dit, Dieu m'a envoyé. Il m'a dit, celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre, c'est celui qui est le Messie. C'est Dieu fait homme. Et Jean donne ce témoignage. Ce n'est pas un témoignage qui vient seulement de Jean. Nous voyons ensuite plusieurs disciples de Jean-Baptiste qui, en croisant Jésus, vont suivre Jésus parce que Jean a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et ces deux disciples vont suivre Jésus pour l'observer, pour regarder s'il est bien cet agneau de Dieu. Et ils en sont convaincus. Et cette conviction, Philippe l'exprime au verset 45, si vous regardez le verset 45, lorsqu'il rencontre Nathanaël. C'est pas juste une émotion, c'est pas juste une intuition. Parce qu'une intuition, ça peut être un délire. Un délire qui durait depuis 2000 ans. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et partout dans la Bible, nous voyons comment Jésus n'arrive pas sur la scène comme un cheveu sur la soupe. Non. Il est prévu. Ça fait des siècles que des tas de choses sont dites à son sujet et qu'il va accomplir et réaliser l'une après l'autre. Qu'il naîtrait à Bethléem. Qu'il naîtrait d'une femme vierge. Qu'il devrait fuir en Égypte. Hein, c'est le massacre des innocents avec Hérode. Il était prophétisé qu'il serait de la descendance du roi David. Il est de famille royale. On savait de quelle famille, à quel endroit. Et dans les prophéties de Daniel, les semaines de Daniel, nous savons même à quel moment de l'histoire, avec les semaines d'années, nous savons même à quel moment le Messie devait être retranché. Les dates sont là. Et on regarde dans les prophéties, on dit, ben oui, c'est écrit. Il était écrit qu'il devait souffrir. Il était écrit qu'il devait mourir. Et sa résurrection était prophétisée. Et on peut continuer et ajouter une foule de détails, y compris sur le fait que dans sa crucifixion, aucun os ne sera brisé, alors qu'il était coutume chez les Romains de briser les os des crucifiés. Aucun os ne sera brisé. Le fait que ses mains aient été percées, alors qu'à l'époque où ça a été écrit, la crucifixion n'existait pas. Bon, c'était pas de cette manière dont on mettait à mort, sous l'Empire babylonien ou sous l'Empire assyrien, etc. Et on peut continuer. Une foule de choses. Jésus n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Il a même son étoile que les mages suivent, qui était prophétisée. Des gens venus de loin qui reconnaissent dans ce signe la naissance du roi des Juifs. Et on peut continuer. Et les disciples disent, oui, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Ils ont été nombreux à parler de Jésus à des époques différentes. Dans les psaumes de David, ils ont été écrits 1000 ans avant l'arrivée de Jésus. Ça date 1000 ans. La Bible rend témoignage. Elle annonce l'histoire, elle prépare, elle dit ce qui va se passer, elle dit qui. C'est pas un homme dont on fait Dieu, c'est Dieu qui au commencement a créé les cieux et la terre, a créé toutes choses, et face à la rébellion de l'homme, à son péché, Dieu a préparé un plan pour venir à la rencontre de l'homme, pour venir poser ses deux pieds sur cette terre, se mettre dans sa peau et s'offrir lui-même comme la rançon du péché. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Une vie précieuse, une vie infinie, la vie de Dieu fait homme, offerte à ma place, comme punition pour mon péché. Il y a, outre le témoignage de plusieurs témoins oculaires ou des prophètes ou des prophéties bibliques écrites des centaines d'années avant, il y a aussi le témoignage de ce qui se passe dans le cœur de ceux qui rencontrent Jésus. Et ça fait 2000 ans que l'être humain, créé à l'image de Dieu, mais coupé de lui par son péché, lorsqu'il rencontre Jésus, qui lui ouvre son cœur, dans son cœur, quelque chose qui se passe, et dont il peut témoigner aux autres. Et c'est ce qui se passe ici. Nous avons André, qui va voir son frère, Simon-Pierre, et qui en a trouvé le Messie. Et Pierre, sur le témoignage de son frère, dit, tiens, mon frère, je le connais. Je vais aller voir. Et puis, ensuite, c'est Philippe. Philippe qui était de la même ville que André, Pierre, et puis ensuite Philippe rencontre Nathanaël. Et Nathanaël, nous avons là un sceptique. On lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit. Et il vient de Nazareth, et Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Lui, il est sceptique. Nazareth, c'est en Galilée. La Galilée est la province la plus méprisée de tout Israël. Et, bien sûr, puisque ça ne suffit pas, il faut bien dans la région la plus méprisée, une ville particulièrement pointée du doigt, c'est Nazareth. Donc, déjà, quand tu es de Galilée, c'est pas reluisant. Mais alors, quand tu es de Nazareth en Galilée, c'est encore moins reluisant. Et il dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et Philippe lui dit, viens et vois. Viens faire toi-même ta conviction, ton expérience personnelle de cœur avec Jésus. Viens. Il y a le témoignage des prophètes, de Moïse, tu peux le lire. Voilà la carte d'identité de Jésus. Mais si ça ne te convainc pas, si le témoignage de Jean-Baptiste ne te convainc pas, viens toi-même expérimenter dans ton cœur la présence de Jésus. Et Nathanaël, viens. Et Jésus le voit arriver, il dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et là, Nathanaël, il répond, tu me connais d'où? Non, parce que dans le texte, c'est d'où me connais-tu? Mais on ne parle pas comme ça, en fait. Hein. Tu me connais d'où? Ah, il ne se laisse pas faire, hein, Nathanaël. Il ne se laisse pas caresser dans le sens du poil, hein. Jésus qui dit, voilà, un Israélite, il n'y a pas de fraude et tout. Ouais, c'est ça, caresse-moi dans le sens du poil, tu me connais d'où? Hein? Méfiant, hein, le Nathanaël, hein? Et Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et là, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de Nathanaël. Il tombe par terre. Et il dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Puis Jésus lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Bah, tu verras des plus grandes choses que celle-ci. Qu'est-ce qui se passe? Forcément, Nathanaël n'était pas en train de faire une sieste. Hein. Sous le figuier, c'est pas ça qui l'aurait fait tomber par terre. Hein. S'il était en train de roupiller tranquillement à l'ombre du figuier, ça n'aurait pas chamboulé ce qu'il y avait dans son cœur. Il ne serait pas passé de cette réponse un petit peu cinglante à Jésus, et tu me connais d'où, tu es fils de Dieu, le roi d'Israël. Et nous ne savons pas ce qui s'est passé sous le figuier, mais nous pouvons imaginer. Peut-être vous avez votre endroit favori pour réfléchir. Des fois, vous avez envie de réfléchir à des choses et vous vous retirez, vous avez votre coin un peu familier. Je ne sais pas, c'est peut-être votre fauteuil préféré ou votre pièce de la maison ou un endroit dans le jardin. Et là, voilà, des fois, on a besoin de faire le point, de réfléchir. On se met à l'écart et là, on pense. Et à mon sens, hein, c'est fort possible que Nathanaël, mais lui, c'était sous le figuier. Et là, sous le figuier, il y a des tas de choses dans son cœur, des tas de questions, et il est probable que sous le figuier, cet Israélite, en qui il n'y a point de fraude, s'adresse à Dieu. Et certainement, il dit à Dieu, Seigneur, je suis juif, je suis un Israélite, mais la nation d'Israël est sous domination romaine, et voilà tant d'années qu'elle est sous domination d'autres conquérants. Pourtant, est-ce que c'est... Tu es le Dieu vivant et vrai. Tu nous as parlé par les prophètes. Tu nous as promis le Messie. Seigneur, je ne comprends pas. Et voilà Nathanaël qui fait le point. Il dit, mais Seigneur, moi, je vais pas emboîter le pas aux religieux d'aujourd'hui qui sont à Jérusalem, y compris... Le souverain sacrificateur, il est corrompu jusqu'à la moelle. Voilà la nation dans laquelle on est aujourd'hui. Qui font copain avec les autorités, qui tirent leur avantage et qui cherchent comment asseoir en même temps leur pouvoir, en même temps si on peut pousser les Romains dehors, pourquoi pas, hein. Vous voyez, tout ce jeu politique de pouvoir d'une élite religieuse qui n'avait plus Dieu dans le cœur. L'amour fervent pour Dieu, la sainteté, l'obéissance avaient disparu de l'élite religieuse d'Israël, de ses dirigeants. La fraude. Et le cœur de Nathanaël est fondamentalement différent. Il est attaché à Dieu sans toute cette corruption, cette fraude qui gangrène depuis des siècles la nation juive. Et peut-être qu'il y a un cri du cœur qui est là et peut-être qu'il dit à Dieu, mais envoie-moi un signe. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il a demandé à Dieu. Mais Dieu l'a vu. Dieu l'a entendu. Et Dieu qui s'est fait homme, Jésus, dit à Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, j'ai vu. Je t'ai vu. Je sais. Je t'ai entendu. Et c'est suffisamment puissant et bouleversant pour que Nathanaël dise, mais tu as entendu ce qu'il y avait dans mon cœur, ce moment intense et fort que j'ai vécu sous le figuier où t'es en face de moi maintenant. Tu es vraiment le Dieu engendré, le roi d'Israël. Eh bien, cette expérience de Nathanaël, chaque être humain qui rencontre Jésus dans le plus profond de son cœur, il est bouleversé. Et Nathanaël va pouvoir, à son tour, aller chercher d'autres et dire, on a trouvé le Messie. Parce que il a rencontré Jésus dans son face-à-face de cœur. Depuis 2000 ans, il y a des hommes et des femmes qui rencontrent Jésus-Christ dans le face-à-face le plus profond de leur cœur. Cette parole faite chair en qui est la vie, qui est la lumière des hommes, et qui disent à ceux autour d'eux, viens, viens, viens et vois. Nous avons là une question à nous qui connaissons Jésus. Est-ce que comme André, je vais chercher mon frère. Est-ce que, comme Philippe, qui rencontre un ami, je dis, j'ai rencontré Dieu. J'ai rencontré Dieu, viens, viens et vois. Est-ce que nous témoignons? Est-ce que nous partageons le trésor que nous avons découvert en Jésus? Le Seigneur nous invite à ne pas garder ce trésor pour nous-mêmes, mais à le partager à d'autres, en les invitant. Après, leur réponse est libre. Viens et vois. Et tu vois. Après, ça ne m'appartient plus. Mais l'invitation nous appartient. Il nous appartient, frères et sœurs, de dire à quelqu'un, viens, viens. Et la suite, c'est entre lui et Dieu. Nous avons cette invitation adressée pour que, comme nous-mêmes qui étions dans les ténèbres, qui étions perdus, sans direction, avons-nous chanté, nous puissions trouver une direction par Jésus qui va éclairer notre chemin. Cette lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alors on reprend. Au commencement, Dieu. Ou alors au commencement, rien du tout, mais ce rien du tout qui fait quelque chose par personne. Et qui aboutit à nous, mais sans but, sans rien. Nous avons deux
deux alternatives. Jean nous dit, écoutez, commencement Dieu, ça serait quand même bien de le connaître et de se réconcilier avec lui, non? C'est le plus simple. On dit, oui, mais Dieu, il va m'éclairer, mais quand il va m'éclairer, il va avoir des choses peut-être pas terribles. Oui, mais Jean précise, il dit, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ, la grâce. Il y a cette lumière qui est claire, mais la grâce de Dieu qui est là pour pardonner, pas pour enfoncer, pas pour flageller, mais pour tendre une main et dire, écoute, ces ténèbres, on va les mettre derrière nous, on n'en parle plus. Je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Viens avec moi. La grâce de Dieu. Et le verset 16 est tellement fort. Il dit, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Et là, il y a une question. Est-ce que je vais rester vide? Je suis un être humain sur cette planète. Est-ce que je vais rester vide? Ou est-ce que je veux me reconnecter à celui qui m'a créé, à cette vie en qui est la lumière? Et qui veut m'offrir cette plénitude. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Est-ce que je veux rester vide? Peut-être j'ai rencontré Jésus, j'ai mis ma confiance en lui, je suis devenu un disciple de Jésus. Mais dans ma vie de tous les jours, je suis à demi rempli. Je marche comme un chrétien, mais à demi. À demi rempli. Quel dommage. Quel dommage d'être à demi rempli, parce que quand on est à demi rempli, ça veut dire qu'on est à demi vide. Et le Seigneur nous dit, mais moi pourtant, j'ai une plénitude à vous faire recevoir. Quel dommage d'être à demi vide en tant que chrétien. Quand on peut recevoir de sa plénitude et grâce sur grâce, et chaque journée qui s'ouvre devant nous, dire tiens, il y a une nouvelle grâce de Dieu, une plénitude que Jésus me donne. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Colossiens en particulier, parle des richesses qui sont en Christ. En lui sont toutes les richesses. Quel dommage de rester pauvre. Quand Christ nous fait partager sa richesse, il dit, tiens, viens prendre de ma plénitude, de ma richesse. Quel dommage de rester pauvre. Quel dommage de rester vide. Mais, nous disions que Jean est là pour rendre témoignage dans son évangile au fait que Jésus-Christ n'est pas un homme dont on a fait un Dieu, mais qu'il est bel et bien Dieu qui s'est fait homme. Et il y a cette question de le recevoir ou de ne pas le recevoir. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Cette lumière qui éclaire tout homme. Et Jean peut se dire, bah oui, mais ça on n'y peut rien. Jean, en prolongeant un petit peu plus loin, un chapitre qu'on étudiera dans les semaines qui viennent, au chapitre 3, alors qu'il vient de dire « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je peux devenir enfant de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le verset 18 dit « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, et nous revenons à cette lumière qui éclaire tout homme, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises, car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Et là, nous avons l'apôtre Jean qui dit quelque chose de très clair de la part de Dieu. Il dit, le fait de recevoir ou de ne pas recevoir, d'accueillir cette lumière ou de ne pas l'accueillir, c'est une préférence. Je préfère les ténèbres à la lumière. Alors les gens ne diront jamais, ou moi je préfère les ténèbres. Ils diront, je préfère ma lumière. Ma lumière à ma façon, ma propre lumière, ou la lumière du Christ, etc. Moi j'ai ma vérité. Jean dit, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Et non, moi j'ai ma vérité. J'ai ma lumière à ma façon. Dieu dit, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et quand on fait ce qui ne va pas, on ne devient pas la lumière de peur que nos œuvres ne soient dévoilées. La lumière, elle éclaire. Quand quelque chose est sale, tant qu'on ne met pas la lumière dessus, on ne le voit pas. En pleine nuit, dans une pièce totalement noire, allez donc voir que le sol est maculé de boue. On ne peut pas, il n'y a pas de lumière. Vous mettez la lumière, ah là on voit que c'est sale. Eh bien c'est pareil pour notre cœur. Quand la lumière de Jésus-Christ arrive, celui qui m'a créé, en qui habite toute la plénitude de la divinité et de la sainteté, lorsque sa lumière arrive, le problème c'est qu'elle éclaire mon péché. Mon péché, j'ai pas envie de l'appeler comme ça, j'ai pas envie de l'appeler péché. C'est pas du péché. Et puis, Jésus, moi ce qui m'arrête, c'est quand même que tu comprends, Marie, elle était vierge, c'est pas possible. Là, on botte en touche, c'est une fausse réponse. Le vrai problème n'est absolument pas cette question-là. C'est pas ça, le vrai problème. Le vrai problème est un problème moral. C'est que je ne veux pas venir à la lumière, parce que sinon, ben c'est la question de la repentance. Entendre que je suis un pécheur, entendre que j'ai besoin de me repentir, de réformer ma voie, que je suis ennemi de Dieu par mes pensées, par mes mauvaises œuvres, c'est un langage que je n'accepte pas. Et c'est pour ça que je préfère les ténèbres à la lumière et je n'accueille pas Jésus-Christ dans ma vie. Quel dommage. Quel dommage parce qu'il ne vient pas comme juge. Jésus-Christ, pour le moment, ne se présente pas comme juge, mais comme sauveur, comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aujourd'hui. Et il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, Jésus, il veut donner sa plénitude et grâce sur grâce, faire grâce. Viens et sois rempli, comme Nathanaël. Rencontre Jésus face à face et sois convaincu pour toi-même par l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire venir à Jésus dans cette repentance et dans cette foi qu'il est Dieu, le Dieu, le seul Dieu de qui je viens, de qui tout vient, de qui la vie, de qui la lumière vient. Et qui s'est fait homme. Et je peux croire en son nom et lui donner ma vie. Alors, frères et sœurs, si nous n'avons pas fait ce choix, faisons-le. Qu'on puisse clairement répondre en sortant de cette pièce, qui est Jésus pour moi. On va pas passer par quatre chemins. Ça fait 2000 ans que des gens se réunissent dans une salle comme celle-là, en chantant à Jésus pendant une heure et demie. Et, alors soit c'est du pipeau, soit c'est des fous. Hein? Voilà, il y a un moment, eh ben tant pis pour eux. Ils ont fait d'un homme un dieu, ben, les pauvres. S'ils sont heureux comme ça. Soit, c'est pas qu'on a fait d'un homme un dieu, c'est que Dieu s'est fait homme. Que Moïse, que les prophètes l'ont annoncé 1000 ans avant, qu'il a réalisé les choses. Qu'il me donne de sa plénitude. Et qu'il est le seul pour l'âme humaine à pouvoir remplir cette âme de ses vrais besoins, de sa vraie soif, et remplir de sa plénitude, grâce sur grâce. Ne nous contentons pas d'être à moitié remplis. Ne restons pas pauvres quand on peut avoir la richesse de Christ. Vivons à fond notre vie chrétienne, si nous avons décidé de suivre Jésus-Christ. Vivons-le à fond. Pourquoi nous contenter d'une demi-vie? Et comme les apôtres, comme les disciples de Jésus, disons à ceux que nous rencontrons, que Dieu place sur notre chemin, j'ai rencontré le Messie, viens et vois. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier parce que toi qui nous as créés, nous qui nous sommes égarés, qui nous sommes pervertis, corrompus, qui faisons de cette planète une planète si bizarre, à la fois avec des traces de ta beauté et à la fois saccagée par la méchanceté et le péché. Une méchanceté qui, il faut bien le reconnaître, vient aussi de notre propre cœur. D'abord, mon cœur est Seigneur, tu veux t'adresser à chacun de nous, pas pour qu'on regarde les autres autour de nous, mais que chacun puisse s'examiner lui-même et dire « Oui Seigneur, c'est vrai, dans mon cœur aussi, il y a de la noirceur. » Merci parce que tu veux changer cela. Merci parce que tu me pardonnes pour cela et je peux venir à toi. Seigneur, que nous puissions le faire si nous ne l'avons pas encore fait. Que nous puissions recevoir de ta plénitude. Seigneur, peut-être ce matin tu interpelles certains de tes enfants qui ont placé leur confiance en toi, qui t'ont pris comme sauveur, Seigneur, mais qui vivent une demi-vie chrétienne, qui sont à demi remplis de ta plénitude, à demi enrichis de ta richesse, ou plus exactement à demi vide, à demi pauvre. Seigneur, ce n'est pas ça que tu as prévu pour nous. Et tu nous pousses à vivre notre relation avec toi de façon pleine, entière, à fond, pour recevoir ta plénitude grâce sur grâce. Seigneur, si aujourd'hui quelqu'un peut dire c'est vrai Seigneur, ça fait plusieurs mois que je ne reçois pas de ta plénitude grâce sur grâce et c'est pas normal, je passe complètement à côté de la vie à laquelle tu m'appelles. Alors Seigneur, que ce matin en toute simplicité puisse se présenter son cœur devant toi et te dire Seigneur, je veux que ça change. Remplis-moi de ta plénitude. Puis Seigneur, invite, pousse-nous à témoigner, à partager le bonheur de te connaître. Au nom de Jésus. Amen.